Itinéraire.
Itinéraire
sur RCF.
Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous cheminons aux côtés de Monsieur Philippe Bryden, ministre conseiller aux affaires culturelles à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Je vous souhaite la bienvenue à RCF et en Loire-et-Cher.
Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici.
Monsieur le ministre, à l'invitation de l'association France-États-Unis de Loire-et-Cher et de son président Jérôme Danard, vous avez passé votre journée dans notre département. Quel est le lien qui existe entre les États-Unis d'Amérique et le Loire-et-Cher ?
Merci pour cette question. Et c'est effectivement vrai, je suis venu à l'invitation de Jérôme Danard et France-États-Unis. Et c'était avec plaisir parce que en Loire-et-Cher, il y a des liens historiques qu'on a évoqués pendant la visite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était surtout les liens qui datent de la Première Guerre mondiale et la présence des troupes américaines dans la région. Mais c'est aussi un pays où, dans l'histoire plus ancienne, grâce à Rochambeau et d'autres qui ont joué un rôle primordial dans notre guerre de l'indépendance, et leur présence en Loire-et-Cher fait que la naissance des États-Unis est liée avec cette région. Et on est très reconnaissant. À part ça, il y a les liens touristiques, parce que c'est une région qui est très importante pour le tourisme venant des États-Unis. Et je sais que le tourisme est important pour la région. Donc les Américains, ils viennent à cause de cette histoire, ils viennent pour les châteaux, ils viennent pour le paysage qui sont très agréables, le vin, pour faire du vélo. Et donc c'est une région qui offre beaucoup, qui est estimée par les Américains qui viennent visiter en France. Donc il y a cette activité économique et puis finalement j'évoque les liens des jeunesses parce que moi j'ai fait des études à Tours dans la région quand j'étais à l'université. C'était à l'époque, ça reste une région où il y a beaucoup d'étudiants venant des États-Unis pour l'apprentissage de français et pour s'imprimer de la culture et l'histoire de la France. Et donc, je me réjouis d'être de retour et de voir que ça reste une région qui est très, où l'activité des étudiants est très présente.
J'ai une certaine admiration pour ce que vous venez de me dire. Vous parlez français. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir parler anglais comme vous parlez français ? Mais le français, vous l'avez appris où avant de venir à Tours ?
Ah ben, j'ai pas de mérite. J'ai fait des études de français aux États-Unis. Mais j'étais pas bon élève. Ce n'était qu'en France que j'ai appris le français. Parce que je suis assez pragmatique quand il s'agit des langues. Il me faut une raison importante pour apprendre une langue et d'être en France. J'étais obligé d'apprendre le français et de parler français. Et puis, il y a une histoire d'amour aussi. J'ai épousé une Française. Donc, ça m'a poussé aussi à apprendre la langue.
Les mauvais élèves qui deviennent bons, c'est peut-être ça la magie de la pédagogie, non ?
Oui, je trouve. Tout le monde est capable d'apprendre une langue, d'apprendre des choses. Il faut chercher la motivation et leur donner envie. Et si ça se manque, ça devient plus difficile. Et ça manquait au début pour moi. Mais dès que j'étais en France, j'ai compris que apprendre une langue, c'est la meilleure manière d'aller à la découverte d'une culture. Et j'ai continué dans ma carrière diplomatique aussi, parce que je pense que j'ai découvert cette procédure m'a plu, même si c'était difficile. Et donc la carrière diplomatique m'a permis d'aller à l'encontre d'autres cultures.
Votre journée a commencé ce matin de bonne heure.
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous avez fait sans trahir de secret ? De quoi était faite votre matinée ?
On a débuté avec une cérémonie à la base aérienne de Gièvre où on a évoqué la présence, enfin l'origine de cette base qui était à l'origine une base américaine pendant la Première Guerre mondiale, une base logistique. Et il y avait un dépôt de gerbes et des cérémonies à l'honneur des soldats qui étaient présents à nos morts pendant cette guerre. Il y avait deux cérémonies de gerbes parce qu'il y a deux stèles qui marquent la présence des Américaines dans la région. Et puis nous sommes allés visiter une petite musée qui parle de l'histoire de Gièvre et surtout de cette présence américaine qui a très marqué les villages. Et après, nous sommes allés à Blois pour être reçus par M. le préfet et avec un déjeuner des représentants de la ville. Cet après-midi, c'était différent. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes. Nous étions dans un lycée où on a parlé avec à peu près 200 étudiants qui étaient pour la plupart en terminale. Et c'était tout en anglais. J'ai fait une présentation sur l'histoire et la culture des États-Unis et les relations franco-américaines. Ils m'ont posé plusieurs questions, tout en anglais, très bon niveau. Donc, je le félicite. Et après, on a été reçu par le président du Conseil général, M. Leroy. Et maintenant, je suis chez vous.
Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
Nous cheminons toujours aux côtés de M. Philippe Briden, ministre conseiller aux affaires culturelles de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Paris. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions et le fait de reconnaître que les élèves avaient un bon niveau d'anglais, je pense que ça va faire plaisir à leurs professeurs et ça va les encourager à perfectionner encore leur travail. Je voudrais revenir sur votre début de matinée.
D'accord.
Parce que je suis très attaché au symbole. Mmh. Le dépôt de gerbe, quelle est la signification du dépôt de gerbe pour un événement qui s'est déroulé il y a 100 ans? Vous parliez de Rochambeau. J'aimerais aussi que vous puissiez me dire quelques mots sur Rochambeau. Beaucoup de Loir-et-Chariens connaissent, mais certains ne connaissent pas. Et ça serait intéressant de pouvoir dire qui est Rochambeau. Et une dernière question, le devoir de mémoire, nous le devons à qui? Aux aïeux ou aux jeunes générations?
Bon, ça, c'est beaucoup de questions à la fois.
Oui.
Donc, pour moi, un dépôt de gerbe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est surtout une signe de reconnaissance. Et les gerbes, c'est principalement des fleurs, quelque chose qui était en vie, qui est rassemblé et présenté devant une stèle ou une pierre, quelque chose qui marque un événement ou un mort ou quelque chose comme ça. Donc pour moi, c'est le vivant qui va à l'encontre du mort ou l'ancien. Et pour dire que ça va continuer, que les faits qui sont marqués par cette stèle a donné naissance à quelque chose qui perdure. Je trouve aussi, souvent il y a la présence des porte-drapeaux. Et pour moi, ça c'est très important parce que c'est des êtres vivants, c'est des hommes et des femmes qui ont fait quelque chose qui est lié avec cette histoire. Ils prennent le temps de venir, de témoigner, d'être là et de faire partie de cet acte symbolique. Et pour moi, ça, c'est la chose la plus importante dans ce genre de dépôt, donc on fait un dépôt de gerbes. Et vous avez... c'était quoi la dernière prochaine question?
C'était aussi Rochambeau.
Rochambeau, oui. J'ai eu l'honneur de faire ce genre de cérémonie pour le 4 juillet cette année devant le tombeau de Rochambeau. Et c'est très important parce que Rochambeau, des fois, il est un peu oublié. Mais c'est lui, ses actes militaires qui ont assuré la victoire des États-Unis contre les Britanniques à la fin de notre guerre de l'indépendance. Mais plus important pour moi, c'est le fait que Rochambeau, c'était un émissaire du roi, quelqu'un de l'ancien régime, un soldat professionnel qui est venu aux États-Unis où il y avait une jeune armée, des fois mal formée, avec un jeune général Washington. Et Rochambeau a fait tout pour marquer le fait qu'il est venu en allié, pas pour dominer, mais pour aider. Il est venu, général, il est parti l'ami de Washington, l'ami des peuples américains. Et ça, c'est essentiel. Et pour moi, le plus important, c'est qu'il a aidé à tisser ce lien d'amitié entre les États-Unis et la France.
Ces liens ont toujours existé avec force, avec vigueur?
Oui, il y a des hauts et des bas. Mais je pense, vu cette histoire très forte de tout au début, les liens entre la France et l'Estonie étaient toujours très importants, très forts. Bien sûr, on n'est pas d'accord sur tous les sujets tout le temps.
C'est ce qui fait la force aussi de l'intérêt de l'échange.
Oui, mais je pense que le fait que cette amitié basée sur des idées et des valeurs, ce n'est pas un accident géographique ou politique, ça donne une force qui, à nos disputes et à nos retrouvailles.
Merci.
Itinéraire.
Itinéraire.
Itinéraire sur RCF. Itinéraire.
Monsieur Bryden, on vient d'entendre un morceau de musique que vous avez choisi. J'apprécie la mélodie, mais comme je vous l'ai dit, je ne parle pas anglais. De quoi parle cette chanson?
Ah oui, c'était un peu un choix de la nostalgie. C'est une chanson de Talking Heads qui s'appelle... The Big Country, le grand pays, et ça parle d'un voyage. C'est quelqu'un qui est dans un avion qui traverse les États-Unis, qui évoque le paysage, qui est un peu en rébellion contre les paysages au début, mais vers la fin de la chanson, ils disent qu'il en a marre de voyager, il veut être quelque part. Et donc, d'abord, c'est une chanson de ma jeunesse, de Talking Heads. C'était l'un des grands groupes de mon époque. Mais parce que je suis diplomate, parce que je suis pour la plupart en dehors des États-Unis, j'aime bien cette évocation de mon pays et l'évocation de voyage et le fait que des fois, on est nomade dans son propre pays, mais on l'aime quand même.
J'aime beaucoup cette transition. On aurait voulu le faire, qu'on ne serait pas arrivé. Justement, j'en viens à vos voyages. Vous avez été attaché culturel et de presse dans de nombreuses capitales. Je les cite. Mm-hmm. Je vais certainement en oublier. Ankara.
Oui.
Antananarivo.
Oui.
Istanbul.
Correct.
Londres.
Oui.
Marseille.
Oui.
Avant de venir à Paris. Je crois, d'après mes informations, si elles sont bonnes, et je crois que j'ai des sources d'informations qui sont bonnes, vous parlez français, on l'entend.
Mm-hmm.
Je ne parle pas de votre langue maternelle, bien sûr. L'arabe, le turc. Que vous apporte l'universalité et la diversité de ces langues et de ces pays et de ces cultures ?
C'est vrai. C'est, malgré toutes les différences, il y a une universalité derrière tout ça. J'avais la chance d'apprendre l'arabe d'abord aux États-Unis et puis à Tunis où j'étais en poste à l'ambassade après mes études. Et donc là encore, à l'âge de 40 ans, j'étais étudiant de langue dans un pays étranger. Et d'avoir fait ça en France et puis en Tunisie a renforcé cette idée que tout le monde sont des êtres humains. Ils ont des mêmes soucis, des mêmes rêves, les mêmes projets, finalement. C'est la famille, c'est l'amour, c'est l'apprentissage de quelque chose. Je pense que le rôle d'un diplomate, c'est de mettre l'accent sur les universalités des humanités, de trouver les liens qui sont entre les peuples et de les renforcer. Et ça, ce n'est pas possible si on n'est pas finalement une humaniste qui croit que l'être humain est quelque chose imparfait mais perfectible et qui est plus ou moins le même partout, malgré les différences culturelles ou politiques ou religieuses qui existent dans tous les pays du monde. Les États-Unis, finalement, c'est une expérience basé sur cette idée qu'on peut rassembler des gens venant de partout dans ce monde et construire quelque chose en commun. Donc je crois profondément à cette idée et ça informe mon rôle de diplomate culturel tous les jours. Et surtout quand on parle aux jeunes, ils ont les mêmes questions partout.
Itinéraire.
Itinéraire. Itinéraire sur RCF.
Monsieur le ministre, parmi vos nombreuses tâches, j'en ai relevé une. Mmh. Vous êtes co-président de la commission franco-américaine qui gère les programmes Fulbright.
Mmh.
J'espère que je prononce bien.
Oui.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cette commission ? J'ai noté que vos priorités, c'est la jeunesse, la diversité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Quelques exemples bien vivants pour qu'on comprenne en quoi consiste cette mission. Et qui est l'autre co-président ?
Je commence avec Fulbright parce que ça, c'est l'un de nos plus anciens programmes d'échange académique. Donc, le programme Fulbright c'est notre plus ancien programme d'échange académique au monde, fondé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était un sénateur Fulbright qui l'a créé aux États-Unis. Donc, ça porte son nom. Et c'est un programme bilatéral, c'est-à-dire il y a des Français qui vont aux États-Unis et les Américains qui viennent en France pour faire des études, pour faire de la recherche ou pour enseigner. Donc ça, c'est un programme académique qui est la recherche surtout et dans des domaines qui promouvoient l'innovation. Donc ça, c'est un point. Le coprésident, c'est toujours quelqu'un du gouvernement français en ce moment. C'est Anne Gallo du ministère des Affaires étrangères. C'est notre ministère de tutelle en France. Et c'est un vrai programme bilatéral, c'est-à-dire les deux gouvernements financent de deux côtés les échanges. Nos priorités, comme vous avez dit, c'est la jeunesse, la diversité, l'innovation, l'entrepreneuriat. Donc, je vais élargir un petit peu. En dehors de Fulbright, on a beaucoup de programmes d'échange qui ne sont pas académiques, mais sont plutôt professionnels ou pré-professionnels. On a un programme qui s'appelle le International Leadership Program, où des Français qui ont moins de 45 ans ont l'opportunité de voyager aux États-Unis pendant 3 semaines. des fois seul, des fois dans un groupe. Et c'est des voyages à thème où on visite et on a des rencontres qui sont liées avec les préoccupations de l'invité. Donc, s'ils sont des banquiers, ils vont visiter des banques, des journalistes vont visiter des journalistes et ainsi de suite. On a d'autres programmes pour les jeunes, des voyages de découverte pour certaines. Très souvent, on cherche des gens qui sont actifs dans la vie civique de leur communauté, qui ont des projets, des envies, qui veulent améliorer leur situation, la situation de leur communauté, leur quartier, leur ville. Et parce qu'on trouve que ça, c'est des leaders de demain. On va à l'encontre des gens de partout. Et comme les États-Unis, c'est un pays qui est de plus en plus divers, et la France aussi, on se tâche d'avoir un programme qui invite des gens venant des Français de toutes sortes, sont invités à partager des programmes comme ça.
Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Je voudrais citer Malraux, qui est un grand ministre français qui a beaucoup voyagé aussi. Oui. Et d'après lui, la définition de la culture, c'est ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Vous partagez cette idée?
Pas tout à fait, mais je sais, je comprends pourquoi il a dit ça. Je pense que la culture, c'est la chose qui rend l'être humain humain. Et ça, c'est important à partager. Et je trouve que la culture, c'est l'un des meilleurs langages de l'être humain aussi. Ce n'est pas juste la langue, mais le langage de la culture, c'est partager avec des autres. C'est le plus enrichissant que je connais.
Cette semaine, en fait, les 65 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déclaration à laquelle les États-Unis ont participé d'une manière très active. Les guerres naissent dans les esprits des hommes. C'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix, acte constitutif de l'UNESCO. La culture est un fondement important.
Exactement.
Et actuellement, pour parler de la culture au sens réduit, on parle de 9 cultures. Je ne vais pas parler du 7e art, ni du 8e art, ni du 9e art, qui est la bande dessinée. Comme beaucoup de choses nous viennent des États-Unis, souvent elles se déroulent aux États-Unis, elles nous arrivent après. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, m'éclairer sur ce que pourrait être le 10e art, voire le 11e art, et aussi la place des nouvelles technologies comme Internet?
Ah, ben on parle de l'avenir. Je pense que c'est... Je ne connais pas exactement ce que ça va être, mais ça va être un art participatif, je pense, parce que si l'Internet nous a montré une chose, c'est que dans l'âme, tout le monde est artiste, tout le monde est créateur, et le pouvoir des nouvelles technologies, c'est qu'on peut se mettre ensemble, on peut créer des projets ignorant les distances et les accidents de géographie. Et donc, ça, c'est très puissant. Donc, j'ignore exactement ce que ça va être, mais ça va être un art à laquelle tout le monde participe. Quand on fait des sondages des jeunes d'aujourd'hui, ils sont très consensuels dans leur approche. Ils veulent former des équipes et tisser des liens pour attaquer un problème ou un projet. Donc, ça va aider à ce genre de le 10e art va être l'art de tout le monde.
Très court, parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs émissions. Y a-t-il encore de la place pour le fameux rêve américain?
Bien sûr. On reste un pays d'immigration. Il y a des gens de partout dans ce monde qui veulent venir aux États-Unis. Et c'est parce qu'ils croient que c'est possible d'avoir une réussite personnelle, économique ou d'autres aux États-Unis. On traverse une crise économique, comme tout le monde. On affronte des inégalités économiques qui sont très graves. Mais le rêve existe encore et l'optimisme américain est aussi présent que jamais.
Monsieur Bryden, je vous remercie.